Bien, là je suis très heureux et personnellement très honoré d'accueillir Jean-François Courtine. Je ne vais pas le présenter parce qu'il a une carrière trop longue et trop prestigieuse, mais c'est un des meilleurs connaisseurs, un des meilleurs spécialistes de la pensée de Heidegger, mais pas seulement, de la phénoménologie, de Husserl, de la philosophie médiévale. Enfin bref, c'est un historien de la philosophie et un philosophe qui a beaucoup de cordes à son arc. Et il va se livrer ce soir à un exercice assez périlleux, finalement, essayer de, je dirais, de donner le cadre à l'intérieur duquel s'est développé ce qu'on appelle, ou on a appelé, la pensée de la technique chez un philosophe qui est pour le moins controversé, dont la fama est un peu mise à mal en ce moment. Il s'agit de Martin Heidegger. Permettez-moi, avant d'avancer un tout petit peu dans la présentation de Jean-François Courtine, parce que je vais oublier sinon, de vous dire que Jean-François reviendra mardi prochain parler d'autre chose. Hein, vous recevrez une autre présentation d'une seconde conférence qui n'a pas de lien avec la première. Peut-être il y en aura-t-il quand même. Il va en trouver. Enfin bon, ça n'a pas été conçu comme ça au départ. Donc, Jean-François est un homme dont j'ai dit qu'il avait beaucoup de cordes à son arc, parmi celles-ci, la pensée de Heidegger, et il m'a semblé qu'il était l'un des mieux indiqués, même s'il n'a pas beaucoup écrit sur la question de la technique, enfin un petit peu quand même, mais pas tant que ça, pour nous présenter, je dirais, comment cette question qui n'était pas, je dirais, au centre des préoccupations de Martin Heidegger dans la première période de sa pensée, enfin jusqu'à Étretat, est devenu un motif central. Comment la lecture de Junger, je ne sais pas si il va en parler peut-être un petit peu, a joué un rôle, la lecture de Nietzsche aussi, une certaine interprétation de la métaphysique. Voilà.
Merci Jean. La deuxième conférence, effectivement, sera liée assez étroitement à la première, puisque elle portera sur la question de l'art. Et donc l'ensemble du programme, si je puis dire, était l'art et la technique. On commence par la technique, mais les deux sont évidemment étroitement liés. D'autant plus étroitement liés que le terme grec que va solliciter longuement Heidegger quand il réfléchira sur l'art et sur la technique, c'est le même terme, techné. Voilà la petite précision donc, par rapport à ce qui a été annoncé pour la semaine prochaine. Je voudrais également, comme l'a signalé Jean, vous redire de ne pas hésiter effectivement à poser des questions. À tout moment, alors bon, n'exagérons pas, mais pas forcément à la fin de mon exposé, vous pouvez m'interrompre et poser des questions simplement, soit parce que ce que je dis vous paraît discutable, compliqué, obscur, ou simplement parce que vous souhaitez des précisions ou des explicitations. Je suis très heureux de parler ici, ce soir, dans cet endroit que je ne connais pas, devant ce public nombreux. J'ai compté, ça fait exactement 40 ans, que je n'ai pas, la dernière fois que j'ai parlé devant des classes préparatoires, professionnellement parlant, dans un grand lycée parisien, ça fait 40 ans. Bon. Alors, c'est loin et au fond, je ne sais pas qui vous êtes, ce que vous savez et ce que vous ignorez. Donc, je m'adresse comme ça un peu au hasard et je peux me tromper sur la cible. Et donc, encore une fois, s'il y a des questions et des demandes d'explicitation, n'hésitez pas. Dans son œuvre, Heidegger évoque ici ou là des marteaux, des tableaux noirs, malheureusement on n'en a pas ce soir, j'aurais bien aimé, des craies, des tables, des chaises, une machine à écrire, une centrale électrique sur le Rhin, la gare de Zurich à plusieurs reprises, des quais de gare, des halls de gare, des tramways, quelques automobiles, une Mercedes, une Adler, des missiles aussi et des rampes de lancement, un avion de ligne sur son tarmac. Il traite expressément de cette dimension essentielle et constitutive de l'instrument ou de l'outil, Werkzeug en allemand, de cette dimension constitutive du Werkzeug, à savoir le Zeug, le truc, le machin, hein, c'est un des éléments constitutifs, encore une fois, du mot courant Werkzeug, qui veut dire l'instrument ou l'outil, à dire traite du Zeug et de sa Zeughaftigkeit, de sa teneur d'outil, de son ustensilité, si l'on veut, de sa structure utilitaire. Mais s'agissant des objets techniques, de leur mode d'être spécifique, du complexe qu'ils constituent, il n'en est jamais question. Ou du moins, il n'en est jamais question au plan, disons, ontique. Pourquoi donc programmer, je me tourne vers Jean, pourquoi donc programmer une séance de travail consacrée à Heidegger, alors même que vous préparez un concours et que vous avez tant à faire? À vrai dire, je ne le sais pas, ou plutôt, je ne sais pas du tout à quoi pourra vous servir dans l'optique du concours ce que je vais essayer de vous exposer ce soir. Il faudra dans tous les cas en user avec précaution et modération. Il fut une époque évidemment lointaine où le nom de Heidegger dans une copie d'agrégation suffisait à vous éliminer. Je n'exclus pas, pour toutes sortes de raisons antagonistes, qu'on retrouve bientôt une situation de ce genre. Et pourtant, il n'est pas tout à fait illégitime, quand on réfléchit sur l'art et la technique, de se tourner au moins par curiosité du côté de Heidegger. En effet, celui-ci, comme je viens de le rappeler, ne dit rien des objets techniques dans une perspective anthropologique, dans une perspective, disons, historico-sociologique, épistémologique, économique, politique, au sens obvi du terme, même si au fond tout son propos est politique en un autre sens. Cependant, il n'aura par ailleurs, en un sens, Jean vient de le rappeler, cessé de s'interroger ou de questionner, comme on dit, au moins depuis le début des années 30, et très précisément depuis son cours de 1929-1930, un grand cours intitulé « Les concepts fondamentaux de la métaphysique » et sous-titré « Monde, finitude, existence ». Il n'aura cessé de s'interroger, donc, depuis ce cours de 1929-1930, jusqu'à ses tout derniers textes, sur ce qu'il nomme dans son langage le « Wesen der Technik », l'essence de la technique. Je reviens un tout petit peu sur la séquence 1929-1930, le cours donc consacré aux concepts fondamentaux de la métaphysique. C'est un intitulé qui ne veut rien dire, hein, comme beaucoup des intitulés de Heidegger, qui sont des intitulés qu'on donne aux services centraux de l'université pour l'annonce des enseignements. En vérité, ce cours sur les concepts fondamentaux de la métaphysique porte essentiellement sur la différenciation entre les choses, en tout cas pour sa deuxième partie, je laisse de côté la première partie, qui concerne les quais de gare sur lesquels on s'ennuie, porte sur la différenciation entre les choses, la pierre, les animaux, et et l'homme, et l'être de l'homme. Dans ce cours, déjà, en 29-30, et précisément en raison de la nécessité de marquer de façon tranchée une séparation entre l'homme et l'animal, n'est-ce pas, Heidegger en vient à réfléchir expressément sur ce que c'est qu'un organe, organon en grec, ce que c'est qu'un instrument, ce que c'est que la main, ce que c'est que le maniement d'un instrument, etc., autant d'éléments qui contribuent à la différenciation dans l'optique de Heidegger entre l'humanité de l'homme et l'animal qui est, lui, pauvre en monde. Ça, c'est pour le point de départ, 29-30. Les derniers textes, je crois qu'il y a vraiment une très longue séquence, c'est pas, de l'œuvre de Heidegger qui tourne autour de cette problématique du Wesen. On verra ce que ça veut dire tout à l'heure, de l'essence de la technique. Si on va jusqu'au bout du parcours, je crois qu'on peut mentionner un texte très intéressant de 1962, qui a été prononcé très significativement par Heidegger devant un public d'ingénieurs, et qui est intitulé, c'est un petit texte qui est intitulé « Langue de tradition et langue technique ».« Langue de tradition et langue technique ». Dont il existe, pour une fois, une bonne traduction due au regretté Michel Art. Là aussi, c'est un point qu'on n'aura pas le temps de développer, sauf s'il y a des questions qui vont dans ce sens-là, mais là aussi, il est très remarquable de souligner, n'est-ce pas, que la réflexion de Heidegger sur la technique débouche aussi sur la problématique de la langue, et de ce que c'est que la langue... à l'âge de la technique, comment ce Wesen der Technik peut affecter jusqu'à la langue elle-même. Cette interrogation, donc, qui se déploie sur une très longue séquence de l'œuvre de Heidegger, redouble à partir des années 33-34, dans un contexte historico-politique évidemment très défini, très chargé, et elle se poursuit avec la plus grande intensité jusque aux années de guerre, 39-40, pour reprendre avec une autre tonalité à partir de 1949. Dans le cadre notamment de ce que l'on nomme les conférences de Brême, qui sont prononcées par Heidegger en 1949, et qui sont intitulées, il y en a quatre, « Das Ding, das Gestell, die Gefahr, die Kehre », « La chose », je peux traduire tranquillement là, « Das Ding », « Le Gestell », disons pour commencer, le dispositif, ou si vous voulez surenchérir, le dispositif d'arraisonnement, dit Gefahr, le péril, et dit Kehre, le tournant, le renversement. Ces conférences de Brême, qui constituent la matrice d'un certain nombre de, qui ne sont pas encore traduites en français, elle constitue la matrice d'un certain nombre de textes mieux connus de vous et qui sont publiés dans les années 50 et qui sont repris dans le volume des Essais et conférences. Je ne vais pas tenter aujourd'hui, dans un espace de temps nécessairement limité, ne serait-ce que de présenter dans sa continuité ce parcours de plus de 30 années. Je m'attacherai plutôt, dans un premier temps, à contextualiser l'amorce de la réflexion heideggerienne relative à l'essence de la technique. Avant d'essayer avec vous d'improviser une lecture et un commentaire, si on a le temps, soit de cet exemplier, qui vous a été distribué à l'instant et qui présente des textes très, très importants mais difficiles. Donc d'abord, je voudrais contextualiser ce début de la réflexion relative à l'essence de la technique. La contextualisation signifie ici tenter d'inscrire dans son contexte historique, politique et littéraire, au sens large, l'élaboration de la réflexion heideggerienne sur la technique. Cette contextualisation, là aussi, et faute de temps et parfois de compétences, sera limitée. Si on voulait aller plus loin dans cet effort de contextualisation, du moment où s'élabore, encore une fois, la réflexion heideggerienne sur l'essence de la technique, si on voulait aller plus loin, il faudrait évidemment prendre en considération des auteurs comme Oswald Spengler, Le déclin de l'Occident, Max Scheler, Max Weber, Carl Schmitt, évidemment, mais aussi d'autres personnalités moins connues de la République de Weimar. Ou encore, il faudrait prendre en considération, cette fois en aval, si je puis dire, des auteurs comme Günther Anders ou Hans Jonas. Tout cela est rigoureusement impossible et je m'en tiendrai ce soir à un auteur sans doute le plus connu ou le moins mal connu de vous, à savoir Ernst Jünger. Ernst Jünger. Je laisse également de côté, c'est-à-dire je laisse ouverte la question qui serait très intéressante et que je livre à votre réflexion ou à vos propres recherches d'après le concours. Je laisse ouverte la question d'une comparaison entre la situation de la France et la situation de l'Allemagne entre les deux guerres par rapport à la technique, à la réflexion sur la technique et à l'évaluation qu'on peut faire de cette technique. Je crois que là, on aurait un champ de confrontation tout à fait passionnant entre le paysage culturel, littéraire, philosophique de la France et de l'Allemagne. La contextualisation qui me paraît nécessaire n'entend évidemment nullement être réductrice par rapport à l'œuvre de Heidegger. Si, comme je l'ai rappelé, la question de la technique est en un sens au cœur de sa pensée depuis les années 30 jusqu'à la fin de sa vie, c'est aussi parce que cette question, et on retrouve ici le Wesen, l'essence de la technique, c'est aussi parce que cette question ne fait qu'un, à ses yeux, ou en tout cas est directement articulée à sa réflexion sur l'histoire de la métaphysique, sur ce qu'il nomme « histoire de l'être », articulé à sa réflexion sur le nihilisme, voire, je l'indiquais trop rapidement tout à l'heure, la problématique de la langue et de la parole. Par là, c'est pas avec cette extension, Heidegger évidemment sort du contexte. Pour entamer donc ce soir un exposé qui n'ira pas jusqu'à son terme, pour des raisons de temps, je vais m'attacher d'abord à quelques concepts ou à quelques termes directeurs pour essayer encore une fois de les contextualiser. Les deux termes qui vont me retenir sont les suivants. Marrenschaft, c'est là où j'aurais bien aimé avoir un tableau, Marrenschaft et Gestell, dont je parlais tout à l'heure. Marrenschaft, Gestell. Vous me permettrez de ne pas précipiter les traductions de ces deux termes. L'exemplier qui vous a été remis et qu'on essaiera tout à l'heure de relire et de commenter fournit quelques explicitations et quelques illustrations dans l'usage de ces termes. Marrenschaft, Gestell. Avant de nous engager dans l'exercice donc difficile de lecture et de commentaires de ces textes, je veux donc proposer une première contextualisation, disais-je, aussi précise que possible et étayée par des remarques de Heidegger lui-même. Je fais allusion ici à quelques items très programmatiques de Heidegger qu'on peut lire dans un des volumes des œuvres complètes, la Gesamtausgabe, le tome 76, qui n'est pas prêt d'être traduit en français, et qui est intitulé Light Gedanken zur Entstehung der Metaphysik, der neuzeitlichen Wissenschaft und der modernen Technik. Les textes de ce recueil s'échelonnent entre 1935 et 1940. Il s'agit, je traduis, n'est-ce pas, de réflexion ou pensée directrice relativement à la naissance ou au surgissement, Entstehung, de la métaphysique, de la science moderne et de la technique moderne. Dans ces réflexions, donc des années 35-40, qui sont qui fournissent en un sens les matériaux préparatoires de la conférence de 1950 que vous connaissez peut-être et qui s'appelle la question de la technique, hein, Die Frage nach der Technik. Dans ces notes préparatoires, Heidegger programme une série de réflexions. Wichtige Bemerkungen zur Technik, remarques importantes sur la technique, et vient une liste de termes. Gestell, Gefahr, on va parler. Geschick, l'envoi destinal. Bestand und Gegenstand, c'est encore deux termes qu'il faudra expliquer, disons, le stock disponible et l'objet. Et puis, voilà, mon vrai point de départ maintenant, Gestell und Mobilmachung. Mobilmachung, entre guillemets. C'est une citation de Junger, précisément. Donc je peux m'autoriser de ce programme de Heidegger, n'est-ce pas, pour engager ma contextualisation sans que celle-ci paraisse violente et importée de l'extérieur. Je pense que si on veut tenter d'élucider ce concept très problématique et difficile à traduire, sur lequel on reviendra, de Machenschaft, il faut partir de la Mobilmachung, de la mobilisation. Le concept de Machenschaft, s'il s'en est un, gagne évidemment à être rapproché de ou confronté à ce terme introduit par Junger, Mobilmachung, mobilisation. Là encore, Mobilmachen, en allemand, Mobilmachung, il faut prendre en considération l'usage assez singulier que en fait Ernst Junger dès 1930. Dans un essai intitulé « Die totale Mobilmachung », la mobilisation totale. Die totale Mobilmachung, la mobilisation totale, il ne faut pas dire totalitaire, mais cette mobilisation totale vise à quelque chose comme une totalisation. Cet essai, donc, « Die totale Mobilmachung », a d'abord été publié en 1930, dans un volume collectif intitulé « Krieg und Krieger », la guerre et les guerriers. Et ce texte n'a été repris pour la première fois que dans le volume 2 des essais de Junger, publié chez Klett-Cotta, ça ne vous intéresse pas, en 1963. Ce qui signifie, c'est ça qui m'intéresse, qu'au fond, Heidegger l'a lu dans le volume Krieg und Krieger, nécessairement. La guerre et les guerriers. La mobilisation totale. On trouve une bonne traduction française de ce texte très court, hein, mais très, très important et très suggestif de Ernst Junger, une traduction française due à Marc Delaunay, un grand traducteur, pas seulement de Heidegger. La traduction a été d'abord publié dans une revue, j'oublie laquelle, Et elle a été reprise, en tout cas, bizarrement, mais peu importe ici la bizarrerie, en appendice d'un volume de Junger intitulé « L'État universel ». L'État universel, publié dans la collection Tell chez Gallimard en 1990. C'est donc très facile à trouver, n'est-ce pas, en appendice de l'État universel de Junger. Il y a cette totale mobilisation totale. L'essai de Junger sur la mobilisation totale vient après la période des récits de guerre de cet auteur. Récits de guerre qui contribuèrent très largement à assurer une renommée importante de Ernst Junger en Allemagne, mais aussi en France. Je les rappelle, vous en avez peut-être lu quelques-uns. Orage d'acier en 1920. En 1922, je ne traduis pas d'abord Der Kampf als inneres Erlebnis, le combat comme expérience vécue. En 1925, un petit ouvrage également qui contribue aux écrits de guerre, intitulé Le Bocto, 1925. Tous ces textes sont aujourd'hui facilement lisibles puisqu'ils ont été repris dans le volume 1 de la Pléiade où on trouve en particulier les journaux de guerre de Ernst Junger. Les journaux de guerre pendant l'occupation allemande de la France. Et donc c'est après ces témoignages, ces récits de guerre que Junger, en 1930, rédige cet essai La mobilisation totale, suivi deux ans plus tard, en 1932, d'un autre essai beaucoup plus long, qui a été traduit en français par le grand spécialiste de Junger, qui est Julien Hervier, intitulé en allemand « Der Arbeiter » et en français « Le Travailleur ». Voilà le volume pour montrer que ça existe. Ça a été bien traduit par Hervier chez Christian Bourgois, qui est un des grands éditeurs et un des grands éditeurs de Ernst Junger en français. Die totale Mobilmachung der Arbeiter, ce sont donc 1930-1932 mes deux textes de référence pour ma contextualisation. Par ailleurs, et je vais pas insister non plus sur ce point, il y a un très riche dossier Heidegger-Junger qui justifie entièrement, qu'on privilégie dans la contextualisation l'œuvre de Junger. Il y a un très riche dossier qui est rassemblé dans un des volumes de la grande édition, la dite Gesamtausgabe à nouveau, le tome 90. Qui a été publié en 2004 et qui comporte plus de 450 pages de notes et de réflexions et de notes de séminaires de Heidegger sur Junger, dans un espèce de débat avec Junger qu'il n'avait pas encore rencontré physiquement à l'époque, ils se sont connus plus tard. Ces notes, là encore, courent sur une période qui va de 1934 à 1940, sans qu'on puisse toujours, c'est pas votre souci ici, n'est-ce pas, les dater avec précision. Parmi ces notes, là encore, une très grande insistance est apportée par Heidegger sur la mise en parallèle de deux termes, son terme propre à lui, Heidegger, Gestell, dont on reparlera, dispositif d'arraisonnement, et un autre terme propre à dont l'usage est propre à Junger, qui est le mot de Gestell. Gestalt, couramment, n'est-ce pas, ça signifie la forme, la figure. C'est le terme, vous savez, clé de ce qu'on appelle la Gestalt théorie de la forme en psychologie. Gestell Gestalt, là aussi, donc, ce sont deux termes sur lesquels Heidegger revient longuement dans son volume, dans ce volume posthume, Zu Ernst Jünger. Je reviens plus précisément à Jünger, donc, et aux deux textes qui nous intéressent au premier chef, La mobilisation totale, le travailleur. Il s'agit pour Jünger, à partir de sa propre expérience du front, Erlebnis, hein, le combat comme expérience intérieure, il s'agit pour Jünger, à partir de sa propre expérience du front lors de la Grande Guerre, guerre qui prend d'emblée une figure inconnue jusque-là, à savoir la figure d'une guerre de matériel, matériel Schlacht. À partir de cette figure inédite de la Grande Guerre, guerre de matériel, il s'agit pour Jünger de proposer quelque chose comme une description ou un diagnostic critique de l'époque et de la situation de l'Allemagne, et en particulier de l'Allemagne d'après-guerre, c'est-à-dire de l'Allemagne sous la République de Weimar. Ce sont Nietzsche d'un côté et la morphologie spenglerienne de l'autre, hein, celle qu'on trouve dans le déclin de l'Occident, Nietzsche et Spengler, qui constituent en un sens l'arrière-plan de la réflexion de Jünger. La réflexion de Jünger, soyons clairs, n'est-ce pas, c'est pas du tout une réflexion de celle qu'on appelle polémologique. Il s'agit pas, Jünger, c'est pas un polémologue, si ça existe, laissons cela. Son propos est plutôt celui de l'étude de l'histoire et des cultures dans une perspective, encore une fois, morphologique, pour en dégager des figures spécifiques, Gestalt, et très précisément ici, une figure spatio-temporelle nouvelle, introduite par la guerre, pour essayer de dégager quelque chose comme le type ou la typique, l'empreinte, Geprägt, c'est le mot allemand, n'est-ce pas, l'empreinte qui organise toute réalité empirique après la Grande Guerre et qui permet d'en dévoiler la signification profonde. La Gestalt, hein, la figure ici, encore une fois, c'est quelque chose comme un type, une typique qui va servir de prisme à l'intelligibilité de ce qu'il y a de nouveau dans la période qui s'ouvre en Allemagne avec la République de Weimar, mais au-delà, après ce bouleversement qu'a constitué la Grande Guerre, comme guerre de matériel. Ce sont les figures de ce genre, Gestalt, qui aux yeux de Jünger constituent les forces vives, les véritables agents du mouvement de l'histoire. C'est Gestalten, ces types ou ces figures. Un peu comme, je risque ce terme, n'est-ce pas, mais je l'emploierai aussi pour Heidegger tout à l'heure, cum grano salis, n'est-ce pas, un peu comme s'il s'agissait de transcendentaux. Ce sont des déterminations quasi transcendantales, hein, que Jünger s'efforce de dégager pour rendre compte, pour donner une intelligibilité à une réalité radicalement nouvelle à ses yeux. Ceci pour marquer que le propos de Jünger, comme ce sera celui de Heidegger plus tard, par exemple dans les conférences de Brême que j'évoquais tout à l'heure en 1949, le propos est d'élaborer quelque chose comme un, c'est le titre général des conférences de Brême, élaborer quelque chose comme un Einblick in das, was ist. Conférences de Brême sont rassemblées sous cet intitulé Einblick in das, was ist. Un espèce de coup d'œil, Einblick, hein, un coup d'œil qui pénètre au cœur de, au plus profond de ce qui est. In das, was ist. On n'est plus dans les récits de guerre, hein, là. On s'efforce, encore une fois, de saisir ce qui est, d'appréhender la Wirklichkeit, l'effectivité de ce qui est advenu et de ce qui advient. Dans la préface à la première édition du Travailleur, significativement signée Berlin, 14 juillet 1932, Junger écrit ceci. Par-delà les théories, les partis pris et les préjugés, tout ce qui relèverait, disons, de l'idéologie politique, par-delà les théories, les partis pris et les préjugés, le projet de ce livre consiste à rendre la figure du travailleur visible comme eine Wirken de Größe, comme une grandeur en action, Wirken, comme une grandeur en action, celle qui est déjà puissamment intervenue dans le cours de l'histoire et qui détermine impérativement les formes d'un monde métamorphosé. Il s'agit moins, poursuit-il, de présenter de nouvelles pensées ou d'un nouveau système que d'accéder à une neue Wirklichkeit, à une nouvelle effectivité, une nouvelle réalité effective. Et il poursuit, tout dépend de l'acuité de la description qui présuppose des yeux doués d'une ample vision libérée de tout préjugé. Voilà le Einblick. C'est une question de regard, d'un regard libéré de tout préjugé, étranger à toute idéologie, susceptible de viser cette neue Wirklichkeit, cette nouvelle réalité effective, cette puissance agissante que Junger cerne d'abord précisément à travers le prisme, si je puis dire, ou à travers la gestalt de ce qu'il appelle der Arbeiter, le travailleur. Dans cet ouvrage de 32, le propos, formulé en d'autres termes, est de rassembler un certain nombre de traits qui caractérisent la Grande Guerre, notre guerre, dit Junger. Cet événement, je cite, cet événement le plus considérable et le plus décisif de notre époque, de toutes celles dont l'histoire nous a livré le récit. Il y a véritablement une dimension prise en considération, disons, d'une dimension épocale, d'une rupture épocale, marquée par la Grande Guerre, comme nous disons, nous aussi, notre guerre, du côté de Junger. On ne saurait dissocier, chez lui et chez Heidegger, alors ça c'est ma thèse, si j'ose dire, on ne saurait dissocier chez lui la réflexion sur la guerre, sur la technique et l'interrogation sur la figure du travailleur. Dans cette guerre, en effet, ce qui ressort, c'est non seulement l'intrication nouvelle de la guerre mondiale et de la guerre civile, mais c'est surtout qu'avec la guerre moderne, disparaît la distinction jusque-là directrice entre la sphère du militaire et la sphère du civil, disparaît la distinction entre le guerrier et le travailleur. Il faut bien comprendre ici que der Arbeiter, le travailleur, n'est-ce pas, c'est un mot que Junger emploie contre Marx, contre le syndicalisme allemand, contre les bolcheviks, contre toute idée selon laquelle les travailleurs constituent une classe sociale, définie, déterminée, le cas échéant en lutte avec d'autres classes, la bourgeoisie, les hobereaux prussiens, ou qui vous voudrez, n'est-ce pas ? Cette figure du travailleur et la figure prégnante qui s'impose pour la totalité de ce qui est. Ce qu'a mis en évidence la Grande Guerre, aux yeux de Junger, donc, c'est la rencontre riche de conséquences à venir entre ce qu'il nomme le génie de la guerre et l'esprit de progrès. Le génie de la guerre et l'esprit de progrès. Alors le progrès ici, l'esprit de progrès ne s'entend pas au sens du XIXe siècle, ou si on veut dans le prolongement des Lumières, au sens où le progrès a pu être, comme le note Junger, la grande église populaire du XIXe siècle, la plus grande église populaire du XIXe siècle. Non, le progrès dont il est question, hein, la rencontre entre l'esprit de la guerre et l'esprit du progrès, le progrès dont il est ici question, c'est d'abord et surtout le progrès de la technique, c'est-à-dire de la maîtrise de tous les moyens de domination. L'ouvrage Der Arbeiter, le travailleur, est sous-titré en allemand Herrschaft und Gestalt. Herrschaft und Gestalt, domination et figure. Domination et figure. Ce qui compte, ce qui comptera à l'avenir, c'est le rapport de ce que chacun des belligérants, des ex-belligérants, sera entretenir avec le progrès entendu en ce sens nouveau et déterminé, frapper d'une empreinte, de l'empreinte du travail, tout ce qui est, et s'assurer la domination, Herrschaft. C'est ce rapport que caractérisait précisément l'expression ou l'idée de total mobile Machung, mobilisation totale. À l'âge classique, au XIXe siècle, la guerre restait limitée, partielle. D'où, souligne Junger, la prévisibilité des équipements et des coûts. La guerre restait une dépense, certes, extraordinaire, mais nullement sans limite. Elle s'en tenait aux forces et aux moyens disponibles. Les guerres du passé. C'est en ce sens, note-t-il, que même une mobilisation générale faisait figure de mobilisation partielle. La totale mobile Marung, ça n'est pas la mobilisation générale que nous connaissons, que nous avons connue, en particulier au moment de la Grande Guerre. Vous vous souvenez, c'est pas assez. Scène d'enthousiasme au moment de la déclaration de la guerre et de la mobilisation générale. Non, la totale mobile Marung, ça n'est pas la mobilisation générale qui présuppose encore quelque chose comme une forme limitée du conflit. Ce que la totale mobile Marung, la mobilisation totale, permet d'esquisser, d'appréhender, n'est-ce pas, c'est quelque chose comme la forme pure de la guerre à l'âge de la technique. La forme pure de la guerre à l'âge de la technique. Autrement dit encore, il s'agit de faire apparaître l'étroite intrication, à partir de cette grande guerre, d'une forme absolument spécifique de mobilisation, dans laquelle la technique est devenue l'élément central, dans laquelle la technique est devenue quelque chose comme le cœur. Cette forme spécifique de mobilisation, c'est aussi la forme moderne du progrès. C'est, là encore, la mobilisation totale qui doit être comprise comme un gigantesque processus de travail qui écrit Junger de manière tout à fait parlante et admirable, n'est-ce pas, ce gigantesque processus de travail qui, je cite, « qui maintient en état la machinerie de la guerre ». Qui maintient en état la machinerie de la guerre. Le but de la guerre, c'est de maintenir en état la machinerie de la guerre. C'est pourquoi le concept de guerre ici se trouve absolument généralisé, et c'est l'opposition même ancienne, n'est-ce pas, de la guerre et de la paix, qui est rendue totalement caduque avec la mobile Marung. Le processus de travail qui maintient en état de marche la machinerie de la guerre, ça peut être là quelque chose comme une paraphrase de ce que Heidegger va appeler « Marenschaft ». le règne du machen, du faire, de l'efficience, du se faire. Il y a machen, hein, le mot allemand machen, faire, dans Machenschaft. Mobilisation, donc, qui est un gigantesque processus de travail destiné à maintenir en marche la machinerie de la guerre, avec une ampleur telle qu'aucun secteur d'activité, aucune vie individuelle n'y échappe. Nous sommes tous des travailleurs, hein, sous cette empreinte nouvelle, cette frappe nouvelle de l'Arbeiter. Le concept de mobilisation totale n'est donc pas du tout un concept militaire et encore moins militariste, hein, à la prussienne. Ce serait un contresens complet que de comprendre la mobilisation comme une militarisation de l'ensemble de la société et de l'État. On n'est pas dans la militarisation avec la totale Mobilmachung. D'où le propos proprement politique cette fois et incontestable de l'ouvrage de 1930 et de 1932. Il faut à l'Allemagne une idéologie capable de, dit Junger, disposer à la mobilisation. Il faut une politique, et c'est certainement pas à ses yeux la République de Weimar qui est capable de la mener, il faut une politique capable de disposer à la mobilisation, il faut une direction, il faut une conscience, il faut une forme, Gestalt, il faut une figure. Le terme apparaît ici dans sa fonction propre dès le texte de 1930, la mobilisation totale. Direction, forme, figure, conscience. Qui doivent s'appuyer sur les travailleurs. Le terme étant pris dans sa généralité et constituant dans le lexique allemand, n'est-ce pas, mais en France ça marche aussi, n'est-ce pas, et constituant quelque chose comme un quatrième Stand. Hein. Nous sommes plus dans une division, n'est-ce pas, où il y a le tiers État, celui qui a remporté, si je puis dire, la victoire avec la Révolution française, intervient maintenant un quatrième Stand, un quatrième État, celui du travailleur, par rapport auquel, effectivement, aux yeux de Junger, les oppositions de classe ne sont plus pertinentes. Il convient donc de se tourner vers les travailleurs. Allons aux travailleurs. Ce mot d'ordre, Eran Ardi Andi Arbeiterschaft, est également un mot d'ordre violemment anticommuniste dans le contexte allemand de l'époque, mais je passe. Pour élucider ce concept de mobilisation totale, donc qui requiert encore une fois un nouvel État, hein, celui des travailleurs, Junger s'explique également en ces termes dans la mobilisation totale. Je cite, pour mieux faire comprendre le processus en cours, nous introduisons ici le concept de mobilisation totale. Les époques sont depuis longtemps révolues où il suffisait d'envoyer au combat des centaines de milliers de sujets qu'on recrutait pour les confier à un commandement sûr. Cela impliquait une certaine prévisibilité des équipements et des coûts. La guerre restait une dépense extraordinaire mais pas sans limite. La mobilisation générale faisait figure de mesure partielle. En revanche, la mobilisation totale, encore une fois, n'est-ce pas, appelle sa forme politique. À cette question, Junger, qui, je le rappelle, n'est-ce pas, ne s'est jamais rallié au national-socialisme, hein, à cette question, quelle est la nouvelle forme politique susceptible de fournir la direction, la conscience, donner véritablement forme ou figure à la figure du travailleur? À cette question, Junger ne répond pas. L'acte de mobilisation, dit-il, revêt un caractère toujours plus radical dès lors que dans une mesure croissante, toute existence est convertie en énergie et que les communications subissent une accélération accrue au profit de la mobilité. La mobilité ici devient une catégorie quasiment ontologique, transversale. Énergie, mouvement, mobilité, le point sur lequel insiste à nouveau Junger, c'est celui de la différenciation des états, c'est-à-dire aussi bien de la disparition de la caste guerrière, autant de traits qui caractérisent l'entrée dans la mobilisation totale et qui entraînent un changement radical jusque dans l'image de la guerre. Je cite un passage significatif. L'image de la guerre comme action armée s'estompe de plus en plus au profit de la représentation bien plus large qui la conçoit comme un gigantesque processus de travail à côté des armées qui s'affrontent sur le champ de bataille surgissent des armées d'un genre nouveau l'armée chargée des communications celle qui a trait à la responsabilité du ravitaillement celle qui prend en charge l'industrie d'équipement etc. L'armée du travail en général. L'armée du travail en général. Nous sommes mobilisés, nous sommes tous mobilisés dans l'armée du travail en général. Que nous ayons un métier ou que nous soyons chômeurs, arbeitslos en allemand. L'économie ou l'économique exerce désormais une fonction rectrice, mais il s'agit d'une économie politique, c'est-à-dire aussi d'une économie de guerre, hein, au sens généralisé du terme, qui poursuit un but de puissance et de domination, qui poursuit comme but et comme seul but l'accroissement de la puissance. Herrschaft, Steigerung, monichien, hein, accroissement de la domination, accroissement de la puissance. Et il ne s'agit pas du tout d'une économie réglée sur le marché, dans la perspective de la généralisation du bien-être matériel ou du plus grand bonheur possible pour le plus grand nombre, selon la figure ONI de l'utilitarisme, dont les représentants typiques sont aux yeux de Junger, mais aussi de Heidegger, John Stuart Mill ou Jeremy Bentham. Avec cette grande guerre, est survenu, je le disais, un tournant épocal ou historique, lequel répond en un sens par son ampleur et sa portée à la grande révolution de 89. Ce tournant qui nous fait entrer dans une ère nouvelle, frappée du double sceau du travail et de la technique, qui apparaît frappée de ce sceau de, je cite, l'exploitation totale de l'énergie potentielle. Cette exploitation totale qu'on trouve dans les ateliers construits par les États industriels, les États industriels deviennent des États ateliers, construits par les États industriels, et qui montrent de la manière la plus significative qu'on se trouve à l'aube de l'ère du travailleur et de la réquisition totale, Herausforderung. Herausforderung, c'est là aussi des termes qu'on retrouve, n'est-ce pas, très marqués sous la plume de Heidegger. Par là même disparaît aussi, vous l'avez bien compris, n'est-ce pas, la définition, la destination classique de la guerre et des buts de la guerre, disparaît, ou s'estompe plutôt jusqu'à disparaître progressivement la différence de la guerre et de la paix. Je cite encore un instant, n'est-ce pas, déployer des énergies d'une telle ampleur, car il ne suffit plus d'équiper ceux qui combattent, nécessite qu'on réorganise dans cette perspective jusqu'au marché le plus intérieur et jusqu'au nerf d'activité le plus ténu. Voilà la tâche d'une mobilisation totale, qui implique aussi le plan, la planification, et qui définit quelque chose comme un espace. Espace du travail, la spatialité, la temporalité se trouvent elles-mêmes affectées par cette ère nouvelle de la Total Mobile Marum. La guerre, en tant qu'élément originel, je cite là un passage encore un instant du Travailleur, la guerre en tant qu'élément originel découvre un nouvel espace. Elle découvre la dimension particulière de la totalité soumise au mouvement du travailleur. La guerre, en tant qu'élément originel, découvre un nouvel espace. La référence implicite ici va naturellement au fragment 53 d'Héraclite, n'est-ce pas ? Polémos, Pater, Pantone, Kai Basileus. Ce fragment 53 d'Héraclite sur le polémos, pater pantone, hein, père de toutes choses, et Basileus, ce fragment 53 d'Héraclite connaît dans ses années 30 une fortune tout à fait remarquable en Allemagne, et vous savez qu'il a également un rôle central dans le texte, le cours de Heidegger de 1935 intitulé « Introduction à la métaphysique », dans lequel Heidegger va jusqu'à écrire dans une parenthèse « Logos und Polemos sind das selbe ». Le Logos et le Polemos sont le même. Je poursuis pas sur ce fragment d'Héraclite et sa fortune. Évidemment, à l'arrière-plan, il y a la lecture de Nietzsche. Je signale simplement à ceux que ça intéresserait, n'est-ce pas, qu'un grand savant qui s'appelle Glenn Most, philologue, a publié une étude très précise sur les commentaires dans l'espace germanique d'Héraclite, et en particulier du fragment 53 dans les années 30. La mobilisation totale branche le réseau, c'est encore une expression frappante, branche le réseau de la vie moderne, déjà complexe et considérablement ramifié à travers de multiples connexions. Elle la branche sur cette ligne à haute tension qu'est l'activité militaire. Mais encore, l'activité militaire, n'est-ce pas, ça n'est pas à entendre simplement dans un horizon strictement militariste disons, c'est un peu caricatural, mais enfin, prussien. Oui, il y a une question d'un de vos camarades, je vous en prie. Allez-y, pardon. Oui, bien sûr, elle est dans le travailleur, Der Arbeiter. Sauf erreur, au paragraphe 78, page 351 dans la traduction française, et elle dit, modifiant d'un seul geste la structure de la division du travail, la Total Mobile Marung, la mobilisation totale, branche le réseau de la vie moderne, déjà complexe et considérablement ramifié à travers de multiples connexions, ce réseau de la vie moderne sur une ligne à haute tension, la ligne à haute tension de l'activité militaire. Activité militaire, encore une fois, qui n'est pas militariste, qui dépasse largement le plan, les prévisions des états-majors. Cette figure du travail, du travailleur, les termes allemands sont ceux de, encore une fois, de l'empreinte, pas de la frappe, hein. Prägung et Präge, cette frappe, cette empreinte, c'est une nouvelle loi, la loi du sceau et de l'empreinte qui frappe le règne du travailleur, celui dans lequel nous sommes, qui est une figure telle que le monde apparaît différemment en fonction de cette figure. Il apparaît comme la scène où évoluent ces figures dans leur rapport entre elles. Je m'arrête un instant pour Vous citez un texte de Heidegger de 1938 que vous connaissez mieux que ces passages de Junger que j'ai rappelés, sans doute, le texte intitulé « L'époque des conceptions du monde », qu'on trouve dans les chemins qui ne mènent nulle part. Dans la traduction française, si c'en est une, page 112-113, Heidegger écrivait ceci, qui vient, disons, qui s'inscrit, n'est-ce pas, dans la ligne de cette réflexion sur mobilisation, empreinte du travail et du travailleur, comme ouverture d'un nouveau rapport au monde, à la spatialité, comme mise en place d'une scène nouvelle. Heidegger écrivait ceci, c'est anecdotique, mais c'est très parlant par rapport à mon analyse immédiate. Le savant disparaît, vous connaissez peut-être ce texte, hein. Le savant disparaît, il est relayé par le chercheur, engagé dans des programmes de recherche. Sont en effet ceux-ci, et non pas l'entretien d'une érudition qui donne à son travail son atmosphère acérée. Le chercheur n'a plus besoin chez lui de bibliothèque. Il est d'ailleurs constamment en route. Il délibère dans les sessions et s'informe dans les congrès. Il se lie aux commandes des éditeurs, ces derniers ayant leur mot à dire au sujet des livres à écrire et à ne pas écrire. C'est que le chercheur est poussé de lui-même, et cela nécessairement, dans la sphère du technicien, au sens essentiel où nous prenons ce mot. Ce n'est ainsi qu'il reste efficace dans l'esprit de l'époque, ce n'est ainsi qu'il est effectif, réel. Wirksam, wirklich. Plus la science et les chercheurs s'acquittent inconditionnellement de la figure moderne, Gestalt, plus la science et les chercheurs s'acquittent inconditionnellement de la figure moderne de leur essence, plus ils se mettent nettement et immédiatement à la disposition de l'utilité commune, mais également plus ils sont obligés de se retirer sans restriction dans l'anonymat officiel de tout travail d'unité générale. Transformation, vous voyez, l'empreinte, hein, l'empreinte du travailleur ici frappe aussi bien le Wissenschaftler, le savant ou l'érudit. Heidegger écrit ça en 1938. Je pense que un siècle après, enfin, ou plutôt le siècle suivant, n'est-ce pas, l'analyse a pour le moins gardé toute sa pertinence par rapport au programme, précisément, et à l'installation dans des programmes. Je reviens sur un point que j'avais déjà mentionné, qui me paraît fondamental, n'est-ce pas ? La mobilisation totale accomplira moins de choses qu'elle ne se réalisera elle-même. La mobilisation totale accomplira moins de choses qu'elle ne se réalisera elle-même. Elle est, en temps de paix comme en temps de guerre, l'expression d'une exigence secrète et contraignante à laquelle nous soumet cette ère des masses et des machines. Je relis la phrase. La mobilisation totale accomplira moins de choses qu'elle ne se réalisera elle-même, car elle est en temps de paix comme en temps de guerre, l'expression d'une exigence secrète et contraignante à laquelle nous soumet cette ère des masses et des machines. Phrase que Heidegger aurait pu contresigner à une réserve près, ou à deux réserves près. La contrainte n'est pas la même chez Heidegger, on verra laquelle tout à l'heure. La contrainte n'est pas la même, l'exigence secrète n'est pas la même, et l'insistance n'est pas tant portée sur l'ère des masses et des machines que sur une dimension, disons, plus destinale, destinale, ce par quoi, encore une fois, Heidegger associe, je les avais mentionnés en commençant, les termes Gestalt, Gestell, Geschick. Destin ou envoi destinal. Alors, je voudrais maintenant après avoir rappelé encore un trait de cette caractérisation, vous voyez bien que ce n'est pas une description au sens strict, que propose Junger, mais plutôt la tentative de jeter un regard jusque dans l'effectivité. Je voudrais encore relever une expression frappante de Junger pour caractériser cette effectivité dans son rapport au monde, car c'est le monde qui est affecté, spatialité, temporalité, humanité de l'homme qui reçoit la frappe de l'Arbeiter. Relevez donc encore une expression importante concernant le devenir chantier du monde, concernant ce que Junger appelle dans sa langue « Werkstättencharakter der Welt ». Werkstättencharakter der Welt. Le monde est devenu tout entier comme un Werkstatt, un chantier. Le monde reçoit un caractère. Le monde a reçu un caractère de chantier. Nous sommes dans un gigantesque chantier qui mobilise la totalité de ce qui est, en soulignant le ist et en marquant bien l'effectivité. Par rapport à cette description, il s'agit bien d'une description, n'est-ce pas, et pas du tout d'une prise de position pour ou contre. Par rapport à cette description, on peut citer aussi, dans le même sens, un texte de Heidegger qui se trouve cette fois dans le volume français Essais et conférences, et en particulier dans l'étude intitulée Überwindung der Metaphysik, on a dû traduire dépassement de la métaphysique, rédigé, c'est très compliqué sur le plan philologique ici, entre 36 et 46. Heidegger écrivait ceci: l'indignation morale de ceux qui ne savent pas encore ce qui est. Ein Blick in das, was ist. L'indignation morale de ceux qui ne savent pas encore ce qui est se tourne contre l'arbitraire et la prétention à la domination des chefs, Führer, forme la plus fatale de l'appréciation que l'on continue à faire d'eux. On pense que les chefs, dans la fureur d'un égoïsme excessif, se sont arrogés tous les droits et ont tout réglé à leur fantaisie. En vérité, ils représentent les conséquences nécessaires du fait que les temps est passé dans le mode de. Alors Heidegger dit pas Mobilmachung. Il dit ici le mode de l'errance, là où s'étend le vide, qui exige un ordre et une sécurité ou une sécurisation unique de tout ce qui est, d'où, je finis ma citation, la nécessité d'une direction, c'est-à-dire d'un calcul qui, par ses plans, met en sûreté la totalité de l'étang. Il faut donc mettre en place et équiper des hommes affectés au travail de direction, les fureurs. Les chefs sont les ouvriers d'équipement, Rüstungsarbeiter, qui surveillent tous les secteurs où l'utilisation et l'usure de l'étang se trouvent mises en sûreté, parce que la totalité du cercle ou des districts est sous leurs yeux et qu'ainsi ils dominent l'errance dans la mesure où elle demeure calculable. Tout ceci est éminemment discutable et mérite d'être discuté. Mais le point est encore une fois celui-ci, j'insiste, n'est-ce pas ? L'idée d'une instance quasi transcendantale. L'idée d'une instance quasi transcendantale dont l'empreinte frappe tout ce qui est, met au service de la machinerie qui n'a d'autre fin que son fonctionnement, tous les hommes, jusque et y compris ce qu'on tient pour des chefs, n'est-ce pas, et qui ne sont eux-mêmes que des ouvriers d'équipement. Les ouvriers d'équipement. Ce qui est, je vais m'arrêter dans presque une minute ou deux, ce qui est évidemment entièrement laissé de côté dans cette caractérisation à la Junger, que Heidegger reprend en un sens à son compte pour la critiquer aussi, n'est-ce pas, en raison de l'accent qui demeure mis sur l'expérience vécue, der Leibniz, la subjectivité, en raison de la dimension anthropologique qui est maintenue. Dans tous les cas, cette perspective, disons, transcendantale ou quasi-transcendantale, a pour conséquence d'effacer, me semble-t-il, toute une série de considérations et de déterminations, probablement, qui sont des déterminations qui relèvent de l'économie, tout simplement, qui relèvent de l'économie. De l'économie, pas au sens de l'économie politique, dont je parlais il y a un instant avec Junger, mais de l'économie au sens obvi du terme, de même que se trouve mis entre parenthèses ou secondarisé, n'est-ce pas, tout ce qui peut relever de la sphère de la société. Des luttes sociales, des conflits de classe, etc. Avant de terminer cette première partie, est-ce qu'on peut considérer ça comme une première partie, Jean ? Avant de terminer, je voudrais citer un texte de Heidegger. Alors évidemment, c'est le Heidegger des années de l'engagement politique le plus marqué, puisque c'est un texte qui est un discours, en vérité, prononcé en 1933, et qui porte sur la notion de travail. Heidegger reviendra, Heidegger revient à la fin des années 30 et assurément dans les textes recueillis dans les essais et conférences sur le travail et la détermination plus que restrictive de l'homme comme animal laborance. Donc, c'est-à-dire, n'assume pas jusqu'au bout, tant s'en faut, les passages que je vais vous lire. Mais il me paraît significatif de cette contextualisation d'après la guerre, d'après la Grande Guerre, de cette contextualisation de la réflexion sur la mobilisation et l'empreinte du travail. Le travail, je glose pour aller plus vite, n'est-ce pas, le travail peut désigner le fait même de travailler, mais aussi bien le résultat, le produit obtenu quand on a mené quelque chose à bien. Cependant, là je cite littéralement, cependant, tout bien considéré, l'essentiel dans l'essence du travail ne se trouve ni dans l'accomplissement, l'effectuation, ni dans son résultat. Il se trouve dans, alors la phrase est complexe, hein, il se trouve dans ce qui, ce faisant, à proprement parler, a lieu. L'essence du travail se trouve dans ce qui a lieu quand on effectue un travail pour produire un objet déterminé. L'essentiel, donc, se trouve dans ce qui, ce faisant, a proprement lieu là. Ce qu'il y a là, proprement, ce qui a lieu dans le travail, c'est que l'être humain se met en tant que être de travail, Arbeitwesen, au cœur du débat avec les temps en son entier. Dans le travail, l'homme qui devient un Arbeitwesen, un être de travail, est au cœur du débat avec les temps en son entier. Dans ce débat auquel l'être humain s'expose, a lieu, en ce qui concerne les puissances configuratrices de la Terre, ceci, qu'elles parviennent enfin, ces puissances configuratrices de la Terre, à leur pleine puissance, qu'elles finissent par s'imposer, mais du même coup, qu'elles souffrent une mise en ordre et qu'elles sont heureusement domptées. Si on voulait caricaturer cette analyse un peu parabiscotée dans sa syntaxe, n'est-ce pas, on dirait que Heidegger met ici l'accent sur une dimension proprement prométhéenne, hein, proprement prométhéenne, de l'homme comme Arbeiter ou de l'homme comme être de travail, en lutte avec les temps en son entier, confronté à des puissances, à des surpuissances. On retrouve ça dans l'introduction à la métaphysique, hein, de 35, confronté à des surpuissances, des puissances configuratrices qui sont celles de la Terre. Et que dans ce combat, il fait ressortir dans leur dimension de puissance, mais qu'il doit aussi dominer, dompter, mettre en ordre. Je poursuis. L'essence du travail ainsi entendu, c'est ce qui, depuis son tréfonds, je cite ici la traduction de François Fédier dans le volume Écrit politique, l'essence du travail ainsi entendu, c'est ce qui, depuis son tréfonds, donne désormais sa détermination à la manière dont l'être humain est Dasein, dont l'être humain existe, comme un étant qui a un mode d'être spécifique, celui que Heidegger appelle Dasein. Le Dasein, das Dasein arbeitet, hein, le Dasein travaille, hein, de manière essentielle. L'essence du travail ainsi entendu, c'est ce qui, depuis son tréfonds, donne désormais sa détermination à la manière dont l'être humain est Dasein. Notre Dasein, notre existence, si vous voulez, hein, est sur le point de déplacer son centre de gravité vers un autre mode d'être, dont j'ai dégagé le caractère il y a quelques années sous le nom de Sorge, souci. Alors là, les bras vous en tombent, n'est-ce pas? Les bras vous en tombent, c'est-à-dire qu'est-ce que fait Heidegger ici? Il reprend, dans un contexte politique déterminé, novembre 33, hein, où on fait l'éloge du travail, hein, il reprend à son compte un des termes clés de l'analytique de Zanon-Sainte. Notre existence est sur le point de déplacer son centre de gravité vers un autre mode d'être, en tant que le Dasein et Arbeitwesen, cet autre mode d'être dont j'ai dégagé le caractère il y a quelques années sous le nom de souci. Voilà ce que les philosophes de métier se sont empressés de récuser unanimement, poursuit Heidegger. Ernst Junger, quant à lui, partant d'une compréhension inventive et féconde de la pensée de Nietzsche, et s'appuyant sur l'expérience qui fut la sienne de bataille de matériel durant la Grande Guerre, a laissé présager, comme mode d'être qui commence à poindre pour l'homme du siècle prochain, celui qu'incarne la figure unique du travailleur. Je m'arrête là. Pour le premier moment de mon exposé, où on retrouve donc la transformation opérée par Heidegger en suivant un fil conducteur qui partage avec Junger le fil conducteur de la mobilisation totale et de la réflexion sur la guerre. On trouve là une extraordinaire variation parmi les variations qu'Heidegger n'aura cessé de faire, hein, de la détermination de l'homme comme zoon logon eikon, animal rationale. Il y a une critique, vous connaissez, par Heidegger, de l'homme comme animal rationnel, être doué de raison. On trouve là une transformation tout à fait remarquable et provisoire, n'est-ce pas, de animal rationné, animal laborance. L'homme, c'est l'arbeitwesen, c'est cet animal très singulier qui est laborance dans une acception elle-même forte de l'arbeit et de l'arbeiter comme empreinte, frappe fournit quelque chose comme une clé d'intelligibilité pour ce qui est, qui ouvre un nouveau rapport au monde, à l'espace et au temps. Alors peut-être on va s'arrêter là un instant, souffler.
Faire une pause, c'est ça?
Oui.
Il y aurait des questions, puisqu'on n'a pas encore beaucoup parlé de Heidegger, ou un peu en creux. Et de la technique, donc on reprendra un petit peu dans 5 minutes si vous voulez bien, hein? Voilà. Jean-François va maintenant, pour les happy few qui ont résisté au traitement de la première partie, avancer dans la question qui va nous occuper donc encore 3 quarts d'heure. Et puis vous pouvez bien sûr poser des questions, n'hésitez pas. Ce n'est pas parole d'évangile ni parole sacrée. S'il y a des obscurités ou des précisions que vous voudriez avoir, il faut lever la main et on transmettra le micro qui est dans ma main pour l'instant. Donc je redonne la parole à Jean-François.
Oui, encore une fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je n'ai pas voulu, n'est-ce pas, du tout, même si le télescopage de mon propos a pu donner cette impression, n'est-ce pas, je n'ai pas du tout voulu, n'entends pas du tout réduire à des motifs empruntés à Junger, ou essentiellement empruntés à Junger, la réflexion de Heidegger sur la technique ou sur l'essence de la technique. On va y revenir dans un instant, comme tu me l'as demandé. Je n'entends pas du tout donc faire cette entreprise de réduction. Je pense simplement que, comme je l'ai dit en commençant, un minimum de contextualisation est indispensable, et un minimum de contextualisation, il faut aller beaucoup plus avant d'ailleurs dans la contextualisation que je ne l'ai fait, puisque je me suis borné à renvoyer à deux textes. La contextualisation devrait aussi prendre en compte de manière plus précise la chronologie, n'est-ce pas, hein, en bonne herméneutique, les textes doivent être lus dans leur situation, même si Heidegger a tout fait pour les déconnecter de la situation. Alors, Wesen, commençons par là, puis après on essaiera peut-être de regarder le handout difficile sur la Marenschaft. Wesen der Technik, qu'on est bien obligé de traduire essence de la... essence de la technique, hein, évidemment. Ça marque, ça suffit, en un sens, à marquer la différence tout à fait considérable entre un auteur comme Ernst Jünger et Heidegger. Bon. Jünger est dans une entreprise de description, d'étude morphologique, hein, de caractérisation, de délimitation de type. Au fond, c'est une perspective typologique à la Nietzsche. Il est dans le prolongement de cette typologie nietzschéenne, sans que sa démarche ne prétende accéder à un plan qu'on va dire ontologique. D'emblée, à l'inverse, n'est-ce pas, la réflexion heideggerienne porte sur les déterminations, non pas ontiques, comme je le disais tout à l'heure, et donc il ne s'arrête pas tellement sur le fonctionnement des machines ou l'intrication des machines, etc. La réflexion est beaucoup moins ontique que proprement ontologique, pour appréhender quelque chose comme une essence de la technique. Alors, quand on a dit ça, il faut immédiatement préciser, c'est la difficulté, l'originalité aussi de la pensée de Heidegger, qu'on va voir peut-être dans un instant, je vais vite, avec la Marenschaft, il faut préciser que ce Wesen, n'est-ce pas, cette essence, ça n'est pas une essence, essentia, contre-distinguée de l'existence, qui serait par la même, en tant qu'essence ou qu'essentialité, n'est-ce pas, dans un domaine de généralité qui échapperait à l'histoire, à l'historicité, au devenir et aux transformations. Le Wesen, c'est un déploiement essentiel, c'est le déploiement essentiel, hein, le déploiement essentiel dans une historicité propre, que Heidegger entend comme destinale, c'est le déploiement essentiel dans une historicité propre, encore une fois, de quelque chose comme die Technik, la technique, hein, dont qui renvoie elle-même à une première instauration, une première ouverture grecque, la techné. En ce sens-là, il y a chez Heidegger, à la différence de la typologie, de l'étude morphologique de Jünger ou de Spengler, n'est-ce pas, il y a une perspective qui est transversale à l'ensemble de l'histoire, ce qu'il appelle l'histoire de la métaphysique. La réflexion sur l'essence de la technique se trouve ainsi directement articulée à une réflexion beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus générale sur l'essence de la métaphysique et sur l'essence et sur l'histoire de la métaphysique, sa structure, et sur le lien qu'elle a ou non avec ce qui se dévoile présentement dès avant les années 30, au titre du nihilisme ou encore de ce que Nietzsche a pu appeler le nihilisme achevé. La notion de Wesen, en ce sens-là, n'est-ce pas, est, si on veut, dynamique, hein, et non pas statique. Elle est dynamique et elle renvoie elle-même à une historicité tout à fait singulière, tout à fait singulière, puisqu'elle nous reconduit jusqu'au moment de l'instauration de ce que nous nommons la philosophie ou de ce que nous nommons la métaphysique, c'est-à-dire à l'instauration platonico-aristotélicienne. C'est ce que tente à montrer le premier texte que je vous ai donné dans le handout, qui tourne autour du terme que Heidegger va abandonner, de Marenschaft. Il va l'abandonner, si on veut faire simple, et faisons simple, c'est déjà, tout cela est déjà trop compliqué, il va l'abandonner au profit du terme de Gestell. On pourrait dire en un sens que la Marenschaft, C'est le prénom, c'est le prénom de ce que Heidegger nommera un peu plus tard Gestell. Cette Marenschaft, donc, se trouve de manière très, très singulière, très passionnante et très discutable, se trouve précisément inscrite jusque dans le moment de l'instauration de la philosophie platonico-aristotélicienne, en rupture avec une autre conception de la phusis ou de la techné, qui était celle des penseurs d'avant Socrate. Alors peut-être on peut lire ensemble le début du texte que vous avez, j'espère, sous les yeux maintenant. Marenschaft, c'est un passage tiré des contributions à la philosophie, Beiträge zur Philosophie, vom Ereignis, de l'événement, ou de l'événement appropriant, si vous voulez, dont une traduction française vient de paraître chez un grand éditeur. Il s'agit du paragraphe 65, pardon, il s'agit donc du tome 65 et du paragraphe 61, vous avez tout ça sous les yeux, je ne rentre pas dans le détail. Lisons, relisons ensemble le texte. Marenschaft, j'ai proposé quelque chose comme machination, ça ne marche pas. Et plutôt, faut-il entendre quelque chose comme le règne de l'efficience, de l'effectivité. Dans son acception usuelle, écrit Heidegger, ce terme « Marenschaft » désigne péjorativement une façon humaine de procéder et de tramer quelque chose. « Marenschaft », un mot courant, effectivement, en allemand, qui veut dire la machination, la manigance, la manœuvre. Ça veut dire aussi l'arrangement, la conciliation. Ce terme, donc, est mobilisé par Heidegger qui lui donne une acception nouvelle dans le contexte de la question de l'être. On n'entend pas désigner par la Marenschaft. Le terme est formé sur Maren, en allemand pour les germanistes, qui veut dire faire, et le suffixe Schaft, qui désigne quelque chose comme une qualité, une teneur. Der Freunde, die Freundschaft, l'amitié. Dans le contexte de la question de l'être, on n'entend pas désigner par là quelque comportement humain, mais bien plutôt une modalité du déploiement essentiel de l'être. Alors, je souligne, n'est-ce pas, ceci. Marenschaft, c'est un concept ontologique. C'est très insuffisant de dire c'est un concept ontologique. C'est pas à proprement parler un concept ontologique au sens classique du terme, au sens classique des ontologies. C'est un concept destiné à dire die Art und Weise, le mode et la manière, la façon dont, le mode et la manière, la façon dont est ce qui est. C'est un concept, je ne veux pas dire modal, parce que l'on va entrer dans la théorie des modalités, il ne s'agit pas d'une modalité, mais c'est un concept qui renvoie à un commodo, ou comment, commencer, die Art und Weise en allemand. C'est un concept donc destiné à caractériser non pas un comportement humain, celui du technicien, mais qui est destiné à caractériser, encore une fois, un nouveau mode de déploiement de l'être. Par conséquent, la nuance dépréciative du terme peut être entièrement écartée, même si cette Marenschaft, ce mode de déploiement, est un mode de déploiement tel que il joue en faveur de l'Unwesen, des Seins. De l'innaissance de la contre-essence, si l'on veut, de l'être. Qu'est-ce que ça veut dire ? Unwesen des Sein. Ça veut dire probablement que il faut penser le déploiement de l'être de la même façon qu'il faut penser dans Sein und Sein, dans être et temps, pour ceux d'entre vous qui ont déjà eu l'occasion d'ouvrir ce maître ouvrage. Il faut penser Wesen und Wesen de la même façon qu'il faut penser l'être de l'homme, le Dasein, son existence, dans le rapport conjoint à la vérité et à la non-vérité. C'est ce que dit le paragraphe 44 de Sein und Zeit, hein, pour ceux d'entre vous qui l'ont lu et qui s'en souviennent. Nous existons, nous sommes toujours, toujours, en même temps, in der Wahrheit, dans la vérité et dans la non-vérité. Il n'y a pas l'antagonisme, n'est-ce pas? L'antagonisme vérité-non-vérité n'est pas tel que on puisse ou on doive nécessairement choisir l'un des deux termes d'une alternative absolue. Wahrheit et Unwahrheit sont intrinsèquement liés, sont ajointés. Toute vérité, comme découvrement, comme dévoilement, comme mise en lumière, comme accentuation d'un trait, d'un caractère, etc., implique nécessairement l'oblitération, hein, l'obscurcissement, le recouvrement de tel autre trait ou de telle autre dimension. Ce rapport vérité-non-vérité que Heidegger entend jusque dans la construction même du mot grec, n'est-ce pas, pour dire vérité, à savoir aletheia, hein, vous savez ça, je pense, puis la terminale, la vérité, c'est le retrait hors de la l'était, hein, dans la vérité elle-même, il y a quelque chose comme une dimension, dans la vérité aletheia, quelque chose comme une dimension conflictuelle. Cette dimension conflictuelle, elle habite, dans la perspective de Heidegger ici, radicalement évidemment différente de celle de Junger, hein, elle habite le Sein lui-même, l'être lui-même, de telle sorte que son essence, son déploiement essentiel est aussi Wesen und Wesen, essence non-essence, essence contre-essence. Ce serait très insuffisant de dire que dans ce déploiement, il se montre en même temps qu'il se retire ou qu'il se scelle. Hein. Il y a un conflit, Streit, il y a un conflit beaucoup plus profond dans ce rapport Wesen und Wesen. Pour ceux d'entre vous qui ont lu le texte, qui ont déjà lu le texte assez célèbre sur l'origine de l'œuvre d'art, hein, l'origine de l'œuvre d'art, vous vous souvenez peut-être, hein, commence par mettre en évidence ce que Heidegger appelle le Streit, hein, le conflit, le différent entre terre et monde, sont d'autres termes. Hein, mais on est toujours dans cette idée du Streit. Il arrive à Heidegger de dire que das Sein ist das Strittige schlechthin. Bon. L'être, c'est le... Je ne sais pas comment traduire exactement. Comme le conflictuel comme tel. Son cœur même est conflictuel. Donc, pas de nuance dépréciative à propos de Marenschaft, même si la Marenschaft joue, alors on est en plein dans cette Unwesen, hein, même si elle joue en faveur de l'Unwesen des Seins. On est dans l'époque, le nihilisme c'est l'époque de l'Unwesen des Seins, on peut dire ça comme ça, pour aller vite, et ici. Cette inessence elle-même, dans la mesure où elle appartient essentiellement à l'essence, ne doit jamais faire l'objet d'une dépréciation. Il faut prendre au sérieux l'Unwesen des Eins. Et c'est, là aussi j'accélère parce que on dépasse le temps raisonnable. Oui, justement, c'est cette coappartenance tout à fait singulière, n'est-ce pas, du Wesen et de l'Unwesen, qui vous permettra peut-être de comprendre, si vous continuez à lire ces textes, ce que Heidegger peut dire autour du Gefahr, du danger, n'est-ce pas? C'est la mobilisation totale, la Marineschaft dans son déploiement, c'est le moment du plus grand danger, n'est-ce pas? C'est le moment du plus grand danger, c'est le moment où le nihilisme s'accomplit, et où cet accomplissement du nihilisme, qui passe par une dévastation de la Terre, n'a pas de raison de prendre fin. Seule la co-appartenance stricte de l'Unwesen et du Wesen, n'est-ce pas, permet d'envisager qu'au plus profond du danger ou du péril apparaisse quelque chose comme susceptible de nous sauver, quelque chose comme une perspective de salut. Il s'agit pas d'un renversement dialectique. Wesen und Wesen. Mais enfin, si vous pensiez ça déjà sous le mode du renversement dialectique, après tout, pourquoi pas? Ce serait une approche possible, n'est-ce pas? Entre Wesen. En fait, c'est pas dialectique, mais ça ressemble à quelque chose comme un renversement dialectique. Le Wesen und Wesen. Donc, l'Unwesen doit être pris radicalement au sérieux. Ceci étant précisé, on vient au dernier point après lequel il sera peut-être raisonnable de s'arrêter, mais tu me diras, et qui lui aussi est tout à fait stupéfiant, n'est-ce pas, dans cette généalogie de la Marineschaft, hein, le règne du faire, du se faire, de l'efficience, sans finalité, hein, sans telos. Ce terme Marineschaft doit bien plutôt renvoyer au terme Maren, faire en allemand, parenthèse stupéfiante, n'est-ce pas, poiesis techne. Celui que nous connaissons bien à titre de comportement humain. Le faire du technites, hein, ou du poietes. Ici, Heidegger fait quelque chose, évidemment, totalement étranger à Junger, n'est-ce pas, un court-circuit, un télescopage, un formidable court-circuit entre ce terme de Marineschaft qu'il fabrique pas, mais à qui il donne un sens nouveau, n'est-ce pas, et deux termes directeurs dans l'élaboration de la philosophie grecque platonico-aristotélicienne, poiesis techne. Alors pourquoi, comment? Pourtant, ce dernier le comportement humain, celui qui se laisse appréhender comme poiesis ou techne, pourtant ce dernier n'est précisément possible que sur la base d'une interprétation de l'étang dans laquelle la Machbarkeit, j'ai traduit la faisabilité, sur la base d'une interprétation de l'étang dans laquelle la faisabilité de l'étang vient au premier plan. Je finis la lecture avant de commenter. Et cela, de telle façon que l'étantité, l'entité, Seinheit de l'étang, trouve justement sa détermination dans sa stabilité et sa présenteté, Beständigkeit ou Anwesenheit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, encore une fois, ce règne, cet empire, hein, de l'efficience trouve son premier point de départ dans une interprétation de l'étang où vient au premier plan la faisabilité. Qu'est-ce que c'est que cette interprétation de l'étang où vient au premier plan la faisabilité? C'est celle qui est commandée par l'idée selon laquelle l'étang qui est véritablement, c'est l'étang présent, c'est l'ousia, chez Platon ou chez Aristote, n'est-ce pas? C'est cette mise en avant de l'ontos on, du véritablement étant, ou de l'ousia, présence, stabilité, qui constitue l'ultime présupposé de l'appréhension de l'étang dans sa faisabilité, laquelle appréhension de l'étang dans sa faisabilité est à nouveau la condition de possibilité pour ce long développement, c'est l'histoire de l'être, n'est-ce pas, qui conduit au nihilisme et au règne de la Marenschaft. Alors, comment opère cet étrange renversement? Il me faut encore lire un alinéa, si vous avez la patience. Le fait que quelque chose se fasse, ou se fasse de soi-même, et par conséquent qu'il soit également faisable par un procédé qui y correspond, un tel se faire de soi-même, voilà l'interprétation de la Physis, telle qu'elle s'accomplit du point de vue de ou dans l'optique de la techné et de l'horizon qui lui est propre, et cela de telle sorte que désormais l'accent est mis de manière prépondérante sur le faisable, sur ce qui se fait, das Machbare und sich Machbaren. Je reprends tout autre terme, n'est-ce pas? Quant au début de la physique, Aristote dit, livre 2, il faut distinguer dans les étangs, deux types d'étangs, vous connaissez le début du livre 2 de la physique. Il faut distinguer deux types d'étangs. Les Fusaionta, et puis qui ont leur consistance, selon la Fusis, ta fusei sunestota, et puis ceux qui dépendent d'autre chose, qui n'ont pas leur principe en eux-mêmes, qui sont les techné onta, non pas les fusei onta, mais les techné onta, les étangs selon la technique, ceux qui sont produits, l'ordre du poieton. D'accord, c'est-à-dire aussi bien du kinéton, de ce qui est susceptible d'être mis en mouvement, mais mis en mouvement de telle sorte que ce qui est ainsi mis en mouvement n'a pas en soi l'arché, le principe des kinéseos, du mouvement. Quand Heidegger fait ça, quand Aristote fait ça au début de la physique, pose cette distinction que aurait pu contresigner Platon. En réalité, dit Heidegger, ou suggère Heidegger, en réalité, ce que fait ici Platon, ce que fait Aristote, c'est de lire la Physis, d'interpréter les Physaionta dans l'horizon de la techné, dans l'horizon de la fabricabilité, dans l'horizon du faire, dans l'horizon du se faire. Les Fusaionta, les étangs qui sont selon la Fusis, n'est-ce pas, sont appréhendés comme ce qui se fait de soi-même, comme le sich von sich machen, comme das Machbare und sich machen, parce qu'ils sont déjà lus à partir de la techné. C'est là, si j'ose dire, je vous ai donné le texte, on n'a pas le temps de relire de la physique, n'est-ce pas, qui vient confirmer cela. C'est d'une certaine façon la Physis qui imite la techné, et non pas comme un peuple pense, la techné qui imite la Physis. Le texte d'Aristote, que je vous avais donné, je crois, en note, n'est-ce pas, dit: la techné imite la Physis, et puis elle porte jusqu'à son accomplissement, jusqu'à son ergone, ce que la nature n'est pas capable elle-même de mener jusqu'au bout. la lecture, l'interprétation hyper violente ici, n'est-ce pas, de Heidegger, consiste encore une fois à situer dans un horizon qui est celui de la techné, du faire, du se faire, du produire, Erforbringen, en allemand, hein, du produire, tout ce qui est de l'ordre de la physis. Par là intervient une coupure radicale aux yeux de Heidegger avec ce qui précédait cette instauration platonico-aristotélicienne de la physiologie ou de la métaphysique, à savoir, n'est-ce pas, le privilège accordé à l'oussia, à l'étant présent, Beständigkeit, la stabilité, Anwesenheit, la présenteté, j'ai traduit tant bien que mal, n'est-ce pas, par rapport à une toute autre appréhension de la physis ou du schuein, qui se trouve illustré ou attesté, n'est-ce pas, chez ceux qu'on nomme les présocratiques, Héraclite, Parménide, au premier chef. À partir de cette lecture-là, on peut dire que d'une certaine façon, n'est-ce pas, s'ouvre la longue marche qui nous conduira jusqu'à la Marenschaft. D'où l'extraordinaire, on est entre nous, même si je ne vois pas cette caméra, d'où l'extraordinaire monotonie, hein, et uniformité de la lecture heideggerienne de l'histoire de l'être. Hein, puisque les choses sont au fond déjà données dès le départ, dès l'instauration de ce qu'il appelle le premier commencement platonico-aristotélicien dans ce rapport physis-techné, ici interprété de manière assez violente en termes de Maren, Sichmaren, Marbare, Marbarkeit. Et je vais peut-être terminer là-dessus, n'est-ce pas? C'est précisément parce que enfin, je vais encore lire quand même avec vous la linéa suivante, mais c'est précisément parce que Heidegger renvoie à ce premier commencement comme absolument inaugural d'une histoire destinale qui se termine dans le nihilisme achevé et la Marenschaft, que le même Heidegger dans les années 35 et suivantes, n'est-ce pas, se met en quête de ce qu'il appelle dans son langage un autre commencement. L'autre commencement, c'est celui précisément, n'est-ce pas, qui ne serait pas pris dans cette décision épocale, hein, de la lecture et de l'articulation fusis techné, fuseionta, dans l'horizon de la techné, dans l'horizon du faire. Lisons encore, si vous le permettez, un alinéa. Alors, voilà donc ce qu'il convient de nommer die Marenschaft. Donc la Marenschaft, vous voyez, Heidegger n'a pas peur de l'anachronisme, hein, ou du mouvement rétrograde du vrai, n'a pas peur de l'anachronisme, il assume violemment l'anachronisme, n'est-ce pas? La Marenschaft, c'est une façon de nommer ce qui se trame dans cette décision inaugurale, à ceci près que, à l'époque du premier commencement, c'est-à-dire l'époque de Platon et d'Aristote, alors qu'on en vient à priver de sa puissance, voilà où il y a une coquille dans le texte, si vous voulez bien la corriger, c'est pas entmarung, mais c'est entmartung. Hein, c'est, à ceci près que, à l'époque du premier commencement, alors qu'on en vient à priver de sa puissance la physis, la Marenschaft ne se révèle pas encore au grand jour dans la plénitude de son essence. Mais il y a eu des... Vous voyez, le geste platonico-aristotélicien est un geste d'entmartung, de dé... Comment dire ? De dépotentialisation. Non, c'est pas la kénose du tout. C'est beaucoup plus violent que ça. Enfin, la kénose, c'est violent, mais c'est un geste de dépotentialisation, j'allais dire démasculation, je le dis, n'est-ce pas ? Démasculation de la physis. Elle est proprement émasculée, en allemand c'est Entmannung, on n'est pas loin de l'Entmachtung. elle se trouve véritablement privée de sa puissance dès dès l'instauration platonico-aristotélicienne de la métaphysique. Cette Entmachtung, cette dépotentialisation, les effets de cette dépotentialisation, si je puis dire, les conséquences à long terme de cette dépotentialisation, n'est-ce pas, se manifesteront au grand jour, comme Marenschaft à l'époque du nihilisme achevé. On a là un peu quelque chose qui ressemble, n'est-ce pas, à ce que dans le grand cours de Heidegger qui s'appelle Le principe de raison, à propos du principe de raison, Satz von Grund, principe de raison, c'est Leibniz, n'est-ce pas, hein, nihil est sine ratione, cur potius quam, rien n'est sans raison, pourquoi ceci plutôt que cela, il faut l'énoncer jusqu'au bout, n'est-ce pas. Ce principe de raison, dit Heidegger dans le grand cours intitulé Le principe de raison, ce principe de raison connaît un long temps d'incubation. Et Heidegger, là aussi, n'est-ce pas, reconduit l'origine, si je puis dire, du principe de raison à l'instauration platonico-aristotélicienne de la métaphysique. On a ici affaire, en un sens, à un geste du même genre avec la techné, reconduite à ce geste inaugural, si je puis dire, de l'Entmachtung. Ce geste inaugural de l'Entmachtung, il prend des figures très différentes et il prend une figure héroïque. Mais on n'a pas le temps de le lire cette fois, dans le texte, je crois que je vous ai, oui, que je vous ai cité, qui est en colonne, c'est pas très commode pour vous pour le lire, que j'ai cité à la fin, qui est le premier Sacimone du cœur de l'Antigone de Sophocle. Cette fois, on est devant l'autre figure de la techné, qui tient tête. À la Marenschaft, à la surpuissance de la nature. Et tenant, ça c'est la figure héroïque, si je puis dire, hein, tenant tête à cette Marenschaft, l'homme, le mot techné est présent dans le cœur, de même que un mot grec difficile, mécané, le mot grec là n'est pas difficile, mais l'adjectif mécanoène, hein, tenant tête ainsi à la surpuissance de la nature. On est chez les tragiques, on est avant l'institution platonico-aristotélicienne de la métaphysique, n'est-ce pas? L'homme, le Dasein grec, se révèle comme deinotaton. Hein, vous vous souvenez de ce premier Sacimone, hein, polata deina, kai uden, deinotaton, tout, hein, entrepôt. Multiple l'inquiétant, mais rien n'est plus inquiétant, à dire traduit très fortement unheimlich, que l'homme. Si l'homme est deinotaton, n'est-ce pas, c'est parce qu'il est capable précisément de faire face à la surpuissance de la nature. Dans le cœur, vous en souvenez, n'est-ce pas, c'est affronter les orages, affronter la mer, creuser la terre du socle de la charrue, etc., etc. Hein, c'est le premier affrontement avec les puissances ou surpuissances de la nature. La logique de ce premier affrontement nous conduit à quelque chose comme la Marenschaft, encore une fois, et l'errance de l'homme comme animal laborance dans les déserts, plutôt dans la terre désolée et dévastée. Voilà, jusqu'à ce qu'intervienne, grâce à la méditation, et non pas à l'action révolutionnaire, un renversement. Je crois que je vais s'arrêter.
Bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On n'a pas abordé les trois lois de la Marenschaft, on ne va pas le faire dans les questions, mais déjà sur ce qui a été dit, sur cette étrange, explication du règne de la Marenschaft à partir d'une déviation originaire ou quelque chose comme une interprétation de l'étang à la lumière de la techné, finalement. Est-ce qu'il y a des questions sur ces points?
Je manque peut-être de mémoire, mais il me semblait que dans le grand, la grande étude sur physique 2 de Heidegger, qui est donc dans la question 2, il me semblait qu'il envisageait tout de même la physique autrement qu'à la lumière de la techné, comme vous venez de le dire. Bon, je n'ai plus suffisamment présent à l'esprit le texte pour l'affirmer, mais je vous pose la question. Il me semblait bien qu'il le présente au contraire différemment. Je ne me trompe pas ?
Non, non, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Heidegger aura eu, et ses auditeurs, à commencer par Gadamer, bon, dans les années 25, aura eu le plus souvent une attitude extraordinairement ambivalente à l'égard d'Aristote, n'est-ce pas ? Une attitude extrêmement... Pour Platon, c'est autre chose, c'est encore beaucoup plus compliqué, je laisse de côté. Mais une attitude extrêmement ambivalente à l'égard d'Aristote, c'est-à-dire que la critique de la métaphysique, de sa structure ontothéologique, etc., etc., bon, a nécessairement comme interlocuteur et aussi adversaire, en un sens principal, Aristote. Mais en même temps, c'est aussi celui, Aristote, n'est-ce pas, qui met sur la voie, si je puis dire, d'un certain nombre de considérations qui vont être essentielles pour Heidegger. Je donne juste un exemple pour les étudiants, n'est-ce pas. Heidegger insiste très largement sur ce point. Aristote, c'est à la fois l'Aristote de physique delta 4, hein, c'est-à-dire celui qui interprète le temps comme nombre de mouvements, et c'est ce que Heidegger appelle l'interprétation vulgaire du temps. Bon. Mais Aristote, c'est aussi celui qui, dans l'éthique énigomaque en particulier, mais pas seulement, n'est-ce pas, pense le temps en rapport au phronimos, hein, celui qui est doué de la phronesis, comme kairos. La temporalité kairotique, hein, du kairos, du moment opportun, du moment de la décision, du moment qui peut faire la décision, cette temporalité-là n'a rien à voir avec la temporalité qu'on va dire cosmologique de physique 4. Donc Aristote est à la fois celui qui ouvre en direction d'une temporalité kairotique, pardonnez-moi cette expression abominable, celui qui est également au point de départ de notre conception cosmologique du temps astronomique et ultimement des horloges. Voilà, pour vous donner juste un exemple de cette extraordinaire ambivalence dans la lecture heideggerienne d'Aristote, qui est tout sauf, cette fois, monolithique.
D'autres questions ?
Juste une petite question, en fait. Qu'en est-il de la mobilisation totale, dont vous avez parlé, en temps de guerre, dans notre temps de paix ?
Bien sûr, mais la mobilisation totale, la totale mobilbarung ne fait pas de distinction entre la guerre et la paix.
Vous voulez un petit peu, est-ce que vous pouvez un petit peu éclairer ce...
Oui, bien sûr, c'est très facile. C'est très facile. Je vais vous donner emprunter une illustration. Tirée du livre des réflexions de Günther Anders. Qui ont été traduites en français sous le titre un peu curieux, mais enfin, après tout, pourquoi pas, « L'obsolescence de l'homme », The Antiquiertheit des Menschen, l'obsolescence de l'homme. C'est un livre tout à fait intéressant pour vous qui préparez un concours où il est question de la technique, hein, cette fois. Hein. C'est pas, il y a des considérations anthropologiques, etc., etc. Et donc, dans un chapitre du tome 2 de « L'obsolescence de l'homme », Günther Anders... anecdote, le premier mari de Hannah Arendt, Günther Anders évoque l'extraordinaire panne d'électricité, dont les anciens se souviennent, qui a affecté tout le nord des États-Unis et une grande partie du Québec en 1967, si je ne me trompe pas. Hein. 57
hein. Plus avant.
Peut-être 57. Ouais. Bon, enfin, l'année n'a aucune espèce d'importance. Une extraordinaire panne, enfin le circuit, le réseau, hein, électrique saute. Ça affecte la ville de New York, l'ensemble du nord des États-Unis et une très grande le Québec et une grande partie du Canada. Et ça dure plus de 24 heures. Ça conduit, Günther, alors cet exemple-là, n'est-ce pas, conduit Günther Anders à s'interroger sur l'intrication. Sur l'intrication des machines, la nécessaire mise en réseau des machines, telle que un incident mineur, n'est-ce pas, sur une je ne sais quelle sous-centrale, bon, est susceptible, par un effet domino, comme on dit, hein, est susceptible par un effet domino de paralyser un système machinique tout entier. De sorte que, dit Anders, les machines sont interconnectées jusqu'à former quelque chose comme une grande machine qui fonctionne, dont le fonctionnement n'est rien d'autre que la pure machinativité. Il faut que ça fonctionne, n'est-ce pas? Et ce fonctionnement, n'est-ce pas, implique effectivement la subordination de toutes les machines secondaires aux machines principales, l'intégration des machines secondaires dans les machines principales, etc. C'est ça le fait que ce soit mobilisé. C'est ça la mobile marong. Hein. La mobile marong, c'est l'être dans la mobilisation de pratiquement tout ce qui est. Et pour échapper à cet être dans la mobilisation, aujourd'hui, il faut beaucoup d'efforts, n'est-ce pas ? Si tant est qu'on puisse échapper à cet être dans la mobilisation. Voyez bien donc en quoi j'espère avoir répondu, hein, en quoi le concept de mobile marouk n'est absolument pas un concept militaire. La paix et la guerre, si tant est qu'elles se laissent distinguer, hein, maintenant on fait des interventions militaires sans déclaration de guerre, comme vous le savez, n'est-ce pas, depuis fort longtemps. On est sorti du droit de la guerre. Cette mobilisation, elle affecte tous les aspects de l'existence humaine. Et alors, Günther Anders s'amusait, n'est-ce pas, dans ce très drôle chapitre, très drôle, enfin tragique aussi, n'est-ce pas, de son obsolescence de l'homme, à dire, oui, bon, mais d'accord, mais il y avait encore les automobiles, ceux qui avaient les automobiles. Oui, aussi longtemps qu'ils ne sont pas tombés en panne d'essence, mais ceux qui sont tombés en panne d'essence, comment on fait, n'est-ce pas, etc., etc. Donc, c'est cette mise en réseau de la totalité des machines dans un fonctionnement, un mouvement, voilà, hein, que dit le mobile, du mobile marne.
Est-ce que tu dirais que les théories du management, la publicité, la manière dont elles requièrent une activité fait partie de cela ou pas? Et sinon, qu'est-ce qui fait la différence?
Je pense que ça fait intégralement partie de cette mobilisation totale.
Comme ce dirigeant de télévision qui voulait occuper le moindre temps de cerveau disponible ou quelque chose comme ça.
Oui, sans doute. On peut être dans la mobile marron. On n'a pas besoin de télévision, je veux dire.
Oui, non, bien sûr.
On n'a pas besoin de mobilisation.
C'est des passages sur le système de la consommation qu'on trouve aussi chez Heidegger.
Oui, oui, c'est une consommation. Il y a voilà. Pour donner encore un exemple sur une illustration de la mobile marque. Donc, je parlais tout à l'heure des choses qu'évoquait Heidegger. Il évoque un avion sur son tarmac. Hein. Je sais plus où d'ailleurs, mais peu importe. Bon, l'avion sur son peut-être dans la question de la technique. Bon. L'avion sur son tarmac, c'est un, dit Heidegger dans son langage, un Bestand. C'est pas, alors, c'est quelque chose qui est disponible, c'est quelque chose qui est disponible, qui remplit une fonction, qui doit nous permettre de nous conduire avec le maximum de sécurité, n'est-ce pas, d'un endroit à un autre. S'il est en panne, il continue d'être un Bestand, n'est-ce pas? On va le mettre dans l'atelier de réparation, etc., etc. Bon. On l'entretient. Bon. En revanche, s'il est perdu sur une vague piste, n'est-ce pas, dans désert. Il perd son statut de Bestand. Et ça devient, d'y aller, simplement un Gegenstand, un objet. Hein? La mobile Mahrung et la Mahrenschaft, ou le Gestell, n'est-ce pas, fait que nous ne sommes plus en présence d'objets, mais de Gegenstände, hein, qu'on puisse à la Husser, n'est-ce pas, qu'on puisse viser, qu'on puisse décrire, qu'on puisse faire le tour, etc. Mais on est en présence de Bestände. Hein. Ce qui caractérise le mode d'être, c'est la Beständigkeit. Alors, pour revenir à des choses très, très, très élémentaires, c'est le caractère jetable. Hein. Le stylo, c'est pas le cas de celui-là, par exemple, mais d'habitude, le stylo, c'est un pur Bestand, c'est-à-dire, il n'y a plus d'encre, on peut le jeter. C'est pas. Ça n'est pas un objet chargé d'histoire ou d'affectivité, n'est-ce pas, comme si c'était le stylo qu'on m'avait offert lors de ma première communion, enfin, en fait, etc., etc., etc. Autrement dit, ce qui est en question, c'est la seule chose, au fond, que j'aurais voulu vous dire aujourd'hui, n'est-ce pas, ce qui est en question dans la réflexion de l'IA sur la technique, c'est quelque chose qui concerne le mode d'être, die Art und Weise. Hein, le mode d'être, ou en une autre tournure allemande, die Weise wie, la façon dont sont les choses qui sont. C'est ça qui est affecté, qui est profondément affecté, die Weise wie, la façon dont sont les choses qui sont. Les choses qui sont affectées selon le mode du Gestell, ou selon le mode de, un autre lexique, n'est-ce pas, de la Mahrenschaft. Et du même coup, n'est-ce pas, dès lors que c'est un mode d'être, c'est très difficile d'envisager d'épargner des îlots. C'est là aussi, sans doute, où le dernier Heidegger s'opposait radicalement à Junger. Junger pensait qu'il était possible, n'est-ce pas, dans le traité du rebelle, ou dans l'anarque, la figure jungérienne de l'anarque, n'est-ce pas, qu'il est possible de se retirer de ce mode d'être. De, non pas d'être anarchiste au sens où on intervient dans la violemment, n'est-ce pas, dans un contexte politique, mais on se retire hein, dans une espèce de forteresse, de citadelle intérieure. Pour aller dire non, il y a pas, y a, cet échappatoire là n'existe pas, hein, puisque encore une fois c'est une modalité, un mode d'être. Et le mode d'être, il concerne tout, et tout étant, y compris, c'est un passage qu'on n'a pas eu le temps de lire, des plus discutables de Heidegger, y compris Dieu lui-même, n'est-ce pas, qui devient causa sui, c'est-à-dire pris dans le schéma du Mahren, ou de la Mahrenschaft. Étrange traduction de la formule augustinienne qui renvoie elle-même au psaume, ipse fecit. Nos, mais je m'arrête sur cette parole scripturaire.
Pourquoi pas. Bien, ben, merci. Pour ceux qui ont le courage de venir la semaine prochaine, on parlera peut-être...
Ça sera beaucoup moins long.
Beaucoup moins long, mais il y aura des images, je crois.
Il y aura des images.
Voilà, donc, ben, bravo.